Radio Vatican, Français Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Mercredi 19 mars 2025, 12e anniversaire du début du ministère pétrinien du pape François. François, qui est toujours hospitalisé avec maintenant des améliorations, notamment en ce qui concerne la situation motrice et respiratoire, annonce faite par la salle de presse du Saint-Siège mardi au soir. Plus de détails dans quelques instants. L'actualité de l'Église sur les continents africains nous conduira au Tchad, où notre correspondant N'Djamena nous rend compte de l'assistance de l'Église aux sinistrés des incendies du 2 mars, incident qui avait causé d'énormes dégâts matériels et humains dans les villages de Kol, diocèse de Koumra. Dans l'actualité sociale et politique africaine, nous parlerons notamment de la rencontre à Doha de Tshisekedi et Kagame autour de la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous conclurons cette édition avec Jim Ousmane Dramé, qui nous parlera de la nouvelle direction des affaires religieuses dont il est le chef, créée au mois d'octobre 2024 par l'État sénégalais. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Fabrice Baguendekéré.
19 mars 2013, 19 mars 2025, 12 ans depuis que le pape François a commencé son pontificat en tant que 265e successeur de Pierre en célébrant la messe en la solennité de Saint-Joseph sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome. Une commémoration à la saveur particulière cette année, François est hospitalisé depuis un mois et cinq jours maintenant à la polyclinique Gemelli de Rome. Et concernant la situation sanitaire du Saint-Père, la salle de presse du Saint-Siège a informé mardi au soir que des améliorations ont été constatées, notamment en ce qui concerne la situation motrice et respiratoire. Illustration de cette amélioration, le Saint-Père n'a pas utilisé la ventilation mécanique non invasive pour passer la nuit, mais l'oxygénation à haut débit qu'il utilise aussi en journée, a affirmé Matteo Bruni, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Une bonne nouvelle qu'il faut cependant accueillir avec prudence, s'agissant d'une réduction progressive, ajoute la salle de presse. Et la récitation du rosaire en faveur du soulagement du pape se poursuit sur la place Saint-Pierre à 19h30, présidée par Mgr Alejandro Arellano Cedillo, doyen de la Rote romaine. Dans sa catéchèse préparée pour l'audience générale du 19 mars, qui a été rendue publique dans la matinée de mercredi, le pape revient sur la rencontre entre Jésus et Nicodème, à qui le Christ explique qu'il est nécessaire de naître de nouveau pour voir le royaume des dieux. L'invitation du Saint-Père est de laisser Jésus nous rencontrer, car en lui, nous trouvons l'espérance pour affronter les changements de notre vie et naître de nouveau. Myriam Sanduno.
Il y a des rencontres qui éclairent la vie comme celle avec Jésus, explique le pape. Et Nicodème, dont parle l'évangile de Jean, en a fait l'expérience. Il a cherché le Christ, confiant qu'il pouvait éclairer les ténèbres de son cœur. Jésus lui a parlé d'une nouvelle naissance, non seulement possible, mais nécessaire à certains moments de notre parcours. Pour le Saint-Père, si nous permettons à l'Esprit d'engendrer une vie nouvelle en nous, nous naîtrons de nouveau et redécouvrirons cette vie qui, peut-être, était en train de s'éteindre en nous. Le pape exhorte à accepter le changement. Certes, les changements nous font parfois peur, mais, rassure l'évêque de Rome, l'esprit nous encourage à affronter ces peurs. Ce n'est qu'en regardant en face de ce qui nous fait peur que nous pouvons commencer à être libérés, estime le Saint-Père. Si nous nous enfermons dans notre rigidité, nos habitudes ou notre mode de pensée, nous risquons le pire, alerte-t-il, soulignant ensuite que la vie réside dans la capacité à changer pour trouver une nouvelle façon d'aimer.
Pèlerin d'espérance, le don de la vie, c'est l'intitulé du message du pape François pour la 62e journée mondiale de prière pour les vocations, rendue publique par la salle de presse du Saint-Siège ce mercredi. En cette 62e journée mondiale de prière pour les vocations, écrit le pape, « Je souhaite vous adresser une invitation joyeuse et encourageante à être des pèlerins de l'espérance en donnant généreusement votre vie. » Le Saint-Père rappelle que la vocation est un don précieux que Dieu sème dans les cœurs, mais aussi un appel à sortir de soi-même pour s'engager sur un chemin d'amour et de service. Tandis qu'à notre époque, de nombreux jeunes se sentent perdus face à l'avenir, le monde a besoin de jeunes qui soient des pèlerins de l'espérance, courageux dans la consécration de leur vie au Christ, plein de joie par le fait même d'être ses disciples missionnaires, exhorte François. Rendons-nous à présent au Tchad où le dimanche 16 mars, l'évêque du diocèse de Koumra, Mgr Samuel Mberabe Tibingar, a célébré une eucharistie à l'intention des victimes de l'incendie du village de Kol dans le secteur Saint-Jean-Baptiste de la paroisse Saint-François-Xavier du diocèse survenu au début de ce mois. L'incendie qui s'est produit le 2 mars avait causé des dégâts matériels et humains, avec 4 personnes blessées et plusieurs maisons et réserves familiales consumées. Le prélat a donc invité les fidèles de cette région à l'espérance en ces temps difficiles. Les comptes rendus d'Edouard Takadji.
Au cours de cette célébration eucharistique, l'ordinaire du lieu, Mgr Samuel Mberabe Tibingar, grâce à la Caritas nationale, a apporté son soutien multiforme à ses victimes en mettant à leur disposition 58 sacs de céréales et une enveloppe de plus de 400 000 francs CFA. Rappelons que le 2 mars dernier, les fidèles du secteur Saint-Jean-Baptiste de la paroisse Saint-François-Xavier de Koumra ont été surpris par un incendie d'origine inconnue ayant fait des dégâts énormes. Des maisons, greniers et bien d'autres sont partis en fumée. Dès lors, la communauté chrétienne de ce secteur est restée dans une situation intenable car elle ne sait que faire et sur qui compter à part Dieu. Dans son homilie, Mgr Samuel Mberabe Tibingar invite les fidèles chrétiens du secteur Saint-Jean-Baptiste de la paroisse Saint-François-Xavier à garder leur foi comme l'a fait Abraham.
En quelques heures, vos biens réduits en cendres, cela peut vous amener à douter de la présence de Dieu dans votre vie. Cela peut vous amener aussi à douter de votre foi. Cela peut vous amener aussi peut-être même à avoir des haines envers celui qui n'a pas fait quelque chose pour empêcher que cette situation arrive. Mais en ce jour, je vous exhorte à garder l'espoir. Dieu ne vous abandonne pas dans la nuit de l'épreuve. Parmi les objets que le feu a consommés, la Bible, qui se trouvait dans la cave d'un de vous qui est brûlé, cette Bible est restée intacte. Elle n'a pas été brûlée. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu lui-même qui vous parle à travers ce signe.
Edouard Takadji Ndjamena pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociopolitique sur les continents. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi dans le plus grand secret à Doha autour de l'émir d'État du Qatar, Tamim Ben Ahmad Al Thani, où ils ont discuté d'un possible cessez-le-feu pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre surprise a eu lieu alors que des pourparlers entre Kinshasa et les groupes armés anti-gouvernementales M23 qui devaient se tenir le même jour en Angola, à des milliers de kilomètres du Qatar, n'ont finalement pas eu lieu. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulegua.
Cette réunion, la première en plus d'un an, a été révélée par une photo publiée par le ministère qatari des Affaires étrangères. Le communiqué qui a suivi l'entrevue de moins d'une heure a indiqué que les deux dirigeants africains avaient décidé de poursuivre les discussions pour établir les bases d'une paix durable. Jusqu'à présent, l'Angola était perçu comme le seul médiateur entre le Rwanda et la RDC, deux pays en état de guerre. Cependant, la médiation angolaise vacille depuis mardi avec l'échec du début des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les rebelles se sont rétractés en raison des sanctions de l'Union européenne contre des responsables du mouvement et des autorités rwandaises. L'émir qatari avait déjà tenté d'organiser une rencontre similaire en janvier 2023, mais celle-ci avait été annulée à la dernière minute. Cette fois, il a le mérite d'avoir réussi à réunir les deux ex-partenaires devenus plus qu'adversaires, voire même ennemis, et à obtenir un cessez-le-feu. Les communiqués précisent qu'il est immédiat et inconditionnel, même si des combats ont été signalés dans les territoires de Walikale où les rebelles tentent d'étendre leur contrôle, en particulier vers la troisième importante mine d'étain au monde en termes de production. Pascal Moulegua, Kinshasa, pour Radio Vatican.
Des attaques des paramilitaires soudanais ont causé la mort d'au moins 50 personnes cette dernière semaine, dont 10 volontaires à Khartoum, ont indiqué mercredi des secouristes, alors que les combats avec l'armée pour le contrôle de la capitale s'intensifient. Khartoum connaît une situation tragique. Les citoyens de plusieurs quartiers sont victimes des violations généralisées de la part des forces de soutien rapide et des milices alliées, a déclaré dans un communiqué la cellule d'urgence de Khartoum, qui fait partie d'un réseau de volontaires coordonnant l'aide humanitaire à travers le Soudan. Le groupe a ajouté qu'environ 70 personnes, dont 12 volontaires, ont été enlevées la semaine dernière, ajoutant que les déplacements forcés ont augmenté dans les centres, le sud et l'est de la capitale. En Côte d'Ivoire, la liste électorale devant servir pour l'élection présidentielle d'octobre prochain a été publiée ce lundi après une opération de révision. Laurent Gbagbo est à nouveau l'un des grands absents de cette liste, comme lors de la précédente révision. Son parti, le PPACI, s'est offusqué de cette absence ce mardi tout en exigeant que son leader soit inscrit. À Abidjan, Mohamed Lamine.
Radié de la liste électorale comme en 2023, Laurent Gbagbo ne peut en l'état actuel concourir lors de la présidentielle d'octobre prochain, alors que son parti l'a désigné comme candidat. Le PPACI, par la voix de son président exécutif, condamne sans réserve cette exclusion. Sous le coup d'une condamnation, l'ancien président ivoirien a été gracié, mais pas amnistié, comme l'ont été d'autres opposants. Il reste donc déchu de ses droits civiques. Pour Sébastien Danojeje, c'est Alassane Ouattara qui ne veut pas que Laurent Gbagbo soit candidat pour avoir pris, je cite, « une loi d'amnistie sélective ». Malgré cette situation, qu'il qualifie d'extrême gravité, Sébastien Danojeje maintient que Laurent Gbagbo demeure le seul et unique candidat du PPACI à la présidentielle prévue dans 7 mois. « Nous allons exiger l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale », a-t-il répété mardi au cours d'une conférence de presse. Par ailleurs, Guillaume Soro et Charles Blegoudé sont eux aussi radiés de la liste électorale en raison de la perte de leurs droits civiques suite à des condamnations. Comme Laurent Gbagbo, ces deux hommes politiques ne peuvent pas en l'état participer directement à la présidentielle d'octobre 2025. Abidjan, Mohamed Lamine pour Radio Vatican.
Le Mali a annoncé mardi son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie au lendemain d'une annonce similaire de ses voisins et alliés nigériens burkinabés. Ces trois pays, parmi les premiers membres de l'OIF créé à Niamey en 1970, ont rompu avec l'ancien allié français au nom du souverainisme. Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels fondés sur la souveraineté de l'État. Par conséquent, le gouvernement décide du retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie, indique le ministère malien des Affaires étrangères dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères français. Ce retrait intervient au lendemain d'une annonce similaire du Burkina Faso et du Niger, alliés de Bamako au sein de l'Alliance des États du Sahel. L'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des objectifs légitimes de leur peuple, s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base des considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, ont affirmé les ministres des Affaires étrangères de l'AES dans un communiqué conjoint mardi soir. L'Érythrée a exhorté la communauté internationale à faire pression pour que l'Éthiopie respecte la souveraineté et l'intégralité territoriale de ses voisins dans un contexte de plus en plus tendu entre les deux pays de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et l'Érythrée ont eu des relations en dents de scie depuis l'indépendance de cette dernière en 1993. En 2018, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a conclu un accord de paix avec le président Isaias Afewerki qui dirige l'Érythrée depuis son indépendance, mais les relations se sont ensuite tendues après la fin de la guerre du Tigré, région du nord de l'Éthiopie, où pourtant l'armée érythréenne avait appuyé les forces éthiopiennes face aux rebelles. L'État sénégalais a mis en place au mois d'octobre 2024 une direction chargée des affaires religieuses dans le pays, le Sénégal qui compte 95% de musulmans et 5% de chrétiens. Cette nouvelle institution étatique a pour objectif de préserver et renforcer le modèle sénégalais de cohabitation religieuse fondée sur la tolérance et le respect mutuel. C'est ce que nous a fait savoir Jim Ousmane Dramé, directeur de la nouvelle structure. Un entretien accordé à Radio Vatican.
Ben, l'objectif, c'est de travailler essentiellement sur comment consolider, préserver, solidifier le vivre ensemble, le modèle sénégalais du vivre ensemble. L'entente, la tolérance entre les communautés religieuses, la compréhension mutuelle, le respect. Et on le sait, le Sénégal est un exemple de vivre ensemble. Donc il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a ceux qui sont de la religion traditionnelle. Mais il y a une entente parfaite, il y a une compréhension. Donc on n'a pas de problème sur le plan donc, religieux. L'objectif est de travailler donc, à préserver, à consolider donc, le vivre ensemble sénégalais, qui est un modèle vraiment exportable actuellement.
Le vivre ensemble entre les religions, une priorité pour le Sénégal.
Le Sénégal est un pays pratiquement à 100% de croyants. Si on prend les musulmans, les chrétiens et ceux qui sont dans la religion traditionnelle, donc ce qui nous lie est fort, c'est leur croyance en Dieu. On peut être de différentes confessions, mais Cela n'empêche pas les Sénégalais de pouvoir vivre ensemble. Il y a la tolérance, il y a la compréhension. Et ça, ça date de longtemps. Au Sénégal, on peut trouver, par exemple, une famille où il y a des musulmans, il y a des chrétiens, des cimetières mixtes, il y a d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens. Et ça, c'est un modèle. Les religieux peuvent vraiment contribuer au développement national en travaillant pour la paix, parce qu'on ne peut rien faire sans la paix.
Comment a été accueillie la création de cette direction des affaires religieuses?
Tout le monde apprécie favorablement la création de cette direction-là. Depuis ma nomination, je fais des visites de courtoisie auprès des guides religieux, musulmans comme chrétiens et comme traditionnels. Ils apprécient donc la création. Il fallait que l'État crée donc un organe, une direction qui s'occupe des affaires religieuses, comme le Sénégal est un pays profondément religieux. Donc tout le monde apprécie vraiment, à sa juste valeur, la création de cette direction-là.
L'État sénégalais, qu'attend-il des religieux?
Ce que l'État attend des religieux, c'est de s'impliquer davantage toute démarche qui peuvent contribuer à préserver le vivre ensemble, à préserver la paix, à préserver donc la tolérance religieuse, la tolérance confessionnelle et le respect mutuel. L'État attend également des religieux de conscientiser, de sensibiliser les adeptes à être donc unis ensemble pour travailler pour la paix, pour amener tout le monde à travailler pour préserver donc le vivre ensemble sénégalais et après tout le monde au travail et le respect de l'autre, le respect de la vie humaine. Et donc, parce que le discours religieux sénégalais est écouté et suivi. Donc, c'est pour cela que l'État attend de ces religieux là vraiment une contribution vraiment dans ce sens.
Pour des questions politiques, des questions économiques, est-ce que l'État a-t-il toujours été à l'écoute des religieux? Quelle est la qualité des relations entre État et communauté religieuse?
C'est une question pertinente. Les relations entre l'État et les religieux au Sénégal, il y a une collaboration, il y a une entente. Et l'État entend prêter une attention particulière vis-à-vis des religieux. Là. L'État décide d'être à leur côté, à les soutenir. Entre l'État et les religieux au Sénégal, il y a vraiment une entente, une parfaite collaboration, et ça date de longtemps. Généralement, les guides religieux également soutiennent l'État par rapport à ses démarches, par rapport à ses politiques publiques. Parce que, comme je le dis souvent, pour réussir un programme au Sénégal, il faut nécessairement impliquer les religieux.
Pour des questions politiques, des questions économiques, est-ce que l'État a-t-il toujours été à l'écoute des religieux?
Mais c'est pourquoi l'État a créé cette direction-là, pour être à l'écoute des besoins, des orientations, des conseils des religieux. Parce que tout le monde travaille pour un seul objectif, c'est le développement économique, le développement national, la paix, le vivre ensemble sénégalais, qui est un modèle qui a préservé et un modèle à consolider. L'État vraiment accorde une attention particulière donc au conseil des religieux.
Nous sommes au thème de cet entretien. Que pouvons-nous retenir?
Ce que nous devons retenir, selon moi, c'est que l'État sénégalais a la volonté d'écouter, de soutenir, d'être à côté des religieux du Sénégal. C'est la raison pour laquelle il a créé la direction. Et il appelle tout le monde, toutes les communautés religieuses à travailler pour consolider, préserver le vivre ensemble sénégalais, la tolérance religieuse, la compréhension mutuelle et le respect de l'autre. Mais je dis même l'acceptation de l'autre.
Docteur Jim Ousmane Dramé, directeur des affaires religieuses du Sénégal, interrogé par Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme français Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguin-Lekeré qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi.
En prenant conscience de sa valeur, tout en sachant qu'elle est la lumière du monde. C'est aux Africains de se réconcilier dans l'amour, la paix et le travail pour faire grandir l'Afrique en s'inspirant de la paix.